Voilà, moi aussi je vis un peu en tremblant. Il y a des personnes qui sont converties plus que mon âge. Alors je me dis, avec un tel cheminement, que peut-on encore dire? Mais la parole de Dieu, par sa grâce, nous révèle toujours toutes choses. Alors nous, ce matin, on va continuer. Alors pour les visiteurs, hein, on s'excuse, on est en route dans l'évangile de Marc, comme il était présenté. Donc on a traversé déjà certains chapitres. On est à Marc 8. Et voilà, on a Marc qui lance la question, qui est Jésus? Et qui accompagne tout son évangile. Tout son évangile, il va nous présenter la personne, l'œuvre de Jésus-Christ. Et après, il interroge ses lecteurs. Il laisse aux lecteurs de choisir. Et là, c'est, si on regarde comme ça, en regardant, c'est à nous de voir. Parce que, ça va, aujourd'hui, on veut plus de questions absolues. On veut plus de réponses absolues. Tout le monde a une vérité. On dit tout le monde a sa propre vérité. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Et finalement, sans repère fixe, l'humanité s'enfonce dans le noir et s'enfonce sans aucune chance de s'en sortir, si ce n'est par la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi Marc dit « Attention, il y a une question pertinente qui résonne. Qui est Jésus ?» Et là, il va carrément poser cette question. Alors on est dans le contexte rapide, rapidement je fais le contexte de là où nous sommes. On avait suivi ses pas, on a vu l'évangile de Marc, c'est un évangile qui bouge. C'est un évangile qui fait pas trop de fioritures, on reconnaît l'action dans Marc. Et dimanche dernier, on a vu que le salut était pour tout le monde. Jésus, il a guéri des personnes qui n'étaient pas du peuple juif, il annonçait les prémices de quelque chose de plus grand. Et il est passé par le peuple juif, oui, mais il dit ça va aller plus loin. Jésus guérit, Jésus donne à manger aussi, on avait vu, il avait nourri ces 4000 personnes. Il transforme les vies spirituellement et aussi physiquement. Et on avait laissé les disciples dans l'incompréhension. Les disciples qui étaient lents à comprendre. C'est ce qu'il leur avait laissé à la fin. Pourquoi ne comprenez-vous pas encore? Et c'est ici que entre notre texte. Alors, ça marche pas. Si. Qui est Jésus? Qui est Jésus? C'est là où notre texte commence. Dans Marc 8, 22 à 26. Ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on l'on pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur ses yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri, et il vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant « N'entre pas au village. » Voilà, là on a cette guérison, On a cette guérison qui nous introduit qui finit en fait ce qu'on avait vu dimanche dernier, qui va nous introduire dans ce qu'on va lire maintenant. Cette guérison, elle est singulière. Marc ici arrête parce que elle est singulière. On a l'impression que Jésus, entre guillemets, rate la guérison. Pour l'instant, il a toujours réussi. Puis là, on a l'impression d'un raté. La guérison, elle n'est pas complète. Il y a besoin de deux temps. Il y a besoin d'un deuxième temps. Et à chaque fois dans Marc, alors ça rejoint celle aussi avec le sourd muet qu'on avait vu dimanche dernier, ils sont mis à l'écart. Et Jésus agit d'une manière différente. Ils sont mis à l'écart de la foule, ils sont mis à l'écart, et à chaque fois il y a quelque chose de différent. Et là Jésus dit, il impose les mains, et la personne n'est pas tout à fait guérie. Il réimpose les mains, il retouche, et cette fois, il voit tout distinctement. Et c'est la même chose, ça illustre le cœur des disciples. Ce miracle n'est pas là pour dire Jésus a raté, il est là pour dire attention, on nous signale notre propre cœur qui a du mal. Les disciples avaient vu plein de choses, on l'a vu hier, la semaine dernière. Ils avaient vu des multiplications des pains, ils avaient vu Jésus qui calmait la tempête, ils avaient vu des démoniaques sauvés. Et pourtant, ils ne voyaient pas distinctement qui était Jésus. Ils y voyaient flou. Ils auront besoin d'être touchés. Et c'est ce que Jésus finalement illustre. Alors je suis pas le seul à le penser, Il y a beaucoup d'exégèses, donc de spécialistes de la Bible qui sont penchés sur ce miracle et qui disent c'est ça finalement. Une illustration que Jésus aura besoin de les toucher une deuxième fois et ça sera fait après la croix à la Pentecôte. Après là où ils auront tout compris. Quelque chose où ils vont voir distinctement. Il y a déjà l'espérance semée en eux. Ils voient mais pas encore bien. Mais il y a une espérance parce que Jésus ne fait pas les choses à moitié. Chaque miracle de Jésus est là pour que nous recherchions pourquoi il l'a fait. Des fois, on lit les miracles de Jésus et on dit « comment je peux faire pareil ?» Comment moi je peux avoir ce pouvoir, entre guillemets? Mais c'est pas ça, la Bible, elle dit chaque miracle, chaque chose que Jésus fait illustre sa personne. Qui est Jésus? Qui est Jésus pour la parole? Qui est Jésus pour le lecteur? Et un jour, les disciples verront tout distinctement. Oui, ce jour est arrivé pour nous, on a l'histoire complète. Mais pour eux qui étaient en train de vivre ce long chemin, ils avaient l'espérance de voir un jour distinctement. Et ceci se fera hors du village, là parce qu'ils seront quelque part plus dans le moule. Le chrétien est quelqu'un qui va devenir dérangeant. Et nous aussi, nous avons besoin d'être touchés par Jésus pour saisir pleinement son plan. Parfois, même en ayant cheminé des années avec le Seigneur, quelque chose nous arrive et nous ne voyons que des formes. Nous ne sommes pas sûrs. Mais par la suite, le Seigneur peut nous éclairer et alors nous voyons tout distinctement. Telle est la marche chrétienne. Telle est la glorieuse espérance. Qu'un jour, peu importe où nous sommes aujourd'hui, si nous sommes en Christ, s'il nous a touchés une première fois, un jour, et Paul le dira, nous verrons tout distinctement. Tous les mystères seront accomplis lorsque Jésus inaugurera son royaume de manière visible. Qu'il a inauguré à la résurrection, mais visiblement quand il viendra régner. Et là, c'est ce que ça illustre. Et c'est pourquoi, après ces miracles un peu exceptionnels, dans sa manière de faire, Jésus poursuit. Hein, on a Marc 8, 27 et 33a. Donc la première partie du verset 33. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe et leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis ? Ils répondirent, Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? Pierre répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela à personne. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. On a plusieurs choses dans ce texte très condensé. Mais Jésus, il commence à interroger ses disciples qui le suivent et il dit « Qui dit-on que je suis ? Un sage ? Un prophète ? Un philosophe ? Un homme de bien ?» Alors il y a plusieurs réponses que le peuple donnait à Jésus hein, et que ses disciples avaient entendues. « Tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, tu es un des prophètes. » Les réponses sont variées. Les disciples donnent des réponses qu'ils ont entendues. Tout le monde est d'accord pour dire que Jésus est quelqu'un d'exceptionnel. C'est un homme qui s'élève au-dessus des autres. Un homme qui mérite d'être suivi. Aujourd'hui, on dirait qu'il aurait beaucoup de followers, beaucoup de suiveurs. Il aura plein de gens qui le suivent. Oh, il est intéressant cet homme. Ça, il vaut le coup. On reconnaît sa puissance, on reconnaît son statut. On a vu, Marc nous a montré à quel point sa puissance, son autorité n'avait aucun égal. Et que le peuple était frappé de la manière dont Jésus parlait. Waouh ! Jamais on n'a entendu cette autorité. Comment il parle comme ça ? Qui est donc cet homme ? Et on lui donnait du coup plein de noms, plein de titres. Un homme de bien, un prophète, Jean-Baptiste. Mais après, il les interroge. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Vous, qui dites-vous que je suis ? Parce que là, il avait l'avis de la foule. Et là, il leur demande « Qui ils sont ?»« Pour vous, qui me suivez ?»« Mes disciples, vous êtes mon plus proche. Vous êtes les plus proches avec qui j'interagis. » Et là, il y a cette révélation hein, du Dieu à Pierre. Quand Jésus les interroge personnellement, il dit « Et vous ? Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre répond. Alors, on ne sait pas si c'est du tac au tac, mais c'est ce qu'on a l'impression. Hein. Il dit « Pierre lui répondit, tu es le Christ. Alors bien sûr, Pierre n'a pas dit tu es le Christ, il dit tu es le Machiach, parce que tu es le Messie. C'est le même mot en hébreu. Mais il dit tu es le Messie, tu es celui qu'on attendait. Tu es celui qui est annoncé, et depuis ces 400 ans de silence, parce qu'entre Malachie, que les enfants terminent là, et puis ces évangiles et la vie de Christ, il y a 400 ans de silence de Dieu. 400 ans d'attente messianique. Et Pierre, il lui dit, tu es le Christ. Donc il le voit clairement. Là, Pierre voit distinctement. Ça va pas durer, mais là, il l'a vu distinctement, que Jésus est le Messie. Il dit, tu es le Machiach, tu es celui qu'on attend. Et Jésus lui dit une chose, ne dis ça à personne. Ne dis ça à personne, parce que c'est pas le moment. Il y a un temps pour tout, et Jésus est conscient que ce que ça implique, le Messie. Surtout par la suite. Parce que qui est Jésus pour nous? Il pose encore la question. Jésus nous interroge encore chaque jour. Tant qu'on est dans sa grâce, il interroge chaque cœur présent en disant « Qui est Jésus ?» Et qui je suis pour toi ce matin? Et Jésus s'arrête pas là. Il lui dit « Faut pas le dire. Parce que moi, je vais vous dire finalement quel Messie je suis. » Parce que c'est ça la problématique. Pierre avait vu en Jésus le Messie, il l'avait reconnu, il dit « Oui, c'est lui. » Et dans d'autres évangiles, il dit « Tu es le Fils du Dieu vivant. » Donc ça va encore plus loin. Mais Jésus coupe court tout de suite. Il dit « Moi, je vais vous partager le plan du salut. » Et en partageant ce plan, c'est au verset 30, il dit « Jésus leur recommande sévèrement de ne dire cela à personne. » Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Et ça, c'est pas le Messie que Pierre attendait. C'est pour ça ce plan qu'il annonce, il va provoquer une incompréhension. Parce que en contextualisant, c'est sûr que nous on connaît aujourd'hui, on est des chrétiens du 20e, 21e siècle, ça nous choque pas. Mais quand Jésus parle de ça à ses disciples, c'était impossible que Dieu réclame la mort d'un homme. C'était impossible. Pour payer pour nous. Non. Non, non, le Messie, il avait une figure guerrière, il avait une figure politique. Le Messie, c'était celui qui devait mettre dehors l'envahisseur. C'est celui qui devait être un guerrier, qui devait utiliser sa puissance. Il devait pas mourir. Jamais. 1300 ans qu'on enseignait ça. Et pour eux, ça provoque une incompréhension. C'est pourquoi Jésus le sait, il dit « Attention, ne le dites pas parce que moi, je vais être obligé de souffrir, le Fils de l'homme va être rejeté, je vais mourir. Mais je ressusciterai après 3 jours. » Et c'est une incompréhension. C'est quelque chose qui défie la logique. Parce que la mort et la résurrection de Jésus, c'est le début, c'est l'inauguration de ce royaume, de cette ouverture de brèche dont Marc parle. Marc dit, il y a quelque chose de nouveau en Jésus-Christ. Il va inaugurer quelque chose et sa mort et sa résurrection inaugureront le royaume de Dieu, qui est déjà là, bien sûr, pas encore révélé, mais qui est déjà là. Et c'est pourquoi il le dit, voilà, selon la réponse, selon que vous acceptez que je suis ce Messie, tout changera, parce que Jésus est un Messie qui est différent. Et ça, c'est la suite. Hein. 8, 32, la fin du verset 32 et le 9, 1. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et lui dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait-il à un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Voilà, Jésus, il est en train d'annoncer qu'il est un Messie, oui, mais pas celui qu'on imagine, et pas celui qu'imaginaient les chrétiens de l'époque. Il dit, moi, j'ai un cœur, vous avez un cœur long à changer. Et ça fait écho à cet aveugle qui a été obligé d'être guéri en 2 fois. Parce que Pierre reconnaît en Jésus le Messie. Ça, c'est le Père qui lui a révélé. Mais quand il dit qu'il est le Messie, c'est son Messie qui voit en Jésus. Celui, le sien, celui qui est guerrier, celui qui doit pas mourir, celui qui doit instaurer le royaume d'Israël, celui avec lesquels ils seront assis à côté pour juger les hommes. Et il n'a pas vu ce Messie qui arrivait. Parce que c'est le Fils de Dieu, mais il a un plan différent. Et c'est pourquoi il appelle tout le monde après. Parce que quand il reprend Pierre, Pierre, il le prend à part. Il dit non, t'es pas comme ça. Attends, t'as confondu Jésus là. T'oublies, le Messie, c'est pas celui qui doit mourir. Je vais t'expliquer un truc. Et Jésus, il discute pas. Il dit, tu n'as pas compris en fait. Il dit, arrière de moi, parce que tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Et parfois, on se retrouve. C'est pas vous, hein. J'ai peut-être moins longtemps de vie chrétienne que la plupart. Mais on se retrouve. On vit des choses et on comprend pas. Et on voudrait expliquer à Jésus que c'est pas bien, ça. On voudrait lui dire, non, mais t'as peut-être pas compris. Alors il nous dit pas, arrière de moi, Satan, mais il me dit, tu n'as des pensées humaines. Tu n'as que des pensées humaines, en fait. Laisse-moi être maître de tes pensées. Et c'est Paul, va citer tout ça par la suite. Soyez renouvelés dans votre intelligence. Il parle pas, les chrétiens sont pas des gens bêtes. Mais on doit être renouvelés dans notre intelligence. Accepter des choses qu'on a du mal à comprendre. Parce que nos pensées humaines, eh ben, elles font le jeu de Satan. Et là, clairement, Jésus reconnaît. Il dit, celui qui t'anime là, ces pensées qui t'animent, elles viennent du monde. Et celui qui anime le monde, c'est mon adversaire. C'est celui qui veut me faire chuter du plan qu'on a préparé avec le Père. Et il dit, vous pouvez pas comprendre le plan. Parce que Pierre l'a pas compris, mais Pierre, il est dépositaire des apôtres, hein. C'est pas que lui. Je veux dire, il l'est pris à part, mais sûrement ils avaient dû discuter ensemble. Là, il est en train de dire n'importe quoi. Va lui dire, Pierre, qui dit n'importe quoi. Enfin, on le sait pas, mais en tout cas, Pierre, lui, il y va, il dit, non, tu fais n'importe quoi, là. Toi, tu dois chasser Rome, et puis Étroit. Et jusqu'au bout. Parce que Pierre aura l'épée. Au jardin, ça c'est à la fin, quand on sera ensemble, on verra ça. Mais jusqu'au bout, il n'a pas compris. Il avait son épée parce qu'il n'avait pas saisi le Messie qui venait. Parce que le cœur humain, voilà, il en prend aux doutes, aux incertitudes, et ne condamnons pas forcément les attitudes des disciples. Des fois, on est un peu condescendant avec eux, mais ils étaient réellement attachés au Seigneur, ils étaient réellement attachés au Messie. Mais Jésus est un homme de Dieu différent, et c'est pour ça qu'il leur annonce un Messie différent, celui qui devait mourir. Et il est en train de dire, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Pourquoi? Parce que Jésus a renoncé à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Pourquoi? Parce que Jésus s'est chargé de sa croix. Et après, il annonce déjà qu'il a le pouvoir de sauver. Parce qu'il dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Et celui qui veut sauver sa vie, mais il la perdra. Il est en train de dire, il y a un point milieu en moi. Il y a quelque chose de nouveau. Et après, il dit, que donnera un homme en échange de son âme? Et aujourd'hui, on peut regarder les puissants qui nous entourent, les gens riches, et courent après la vie. Je ne sais pas si vous intéressez, peut-être pas beaucoup, mais tous les grands riches de ce monde, ils essayent de survivre. Soit en se téléchargeant dans un ordinateur, soit en prolongeant leur corps, en se greffant des trucs. Ils refusent de mourir, ils ont tout réussi. Mais leur âme, que donnerait un homme en échange de son âme? Ils arrivent en vieillissant et ils ne voient pas d'issue, malgré tous leurs milliards. Ils ne sont pas plus heureux. Et c'est parce que Jésus dit, attention, il y a quelque chose. Ça va être difficile. Mais je vous donne une espérance. Aujourd'hui, vous allez peut-être voir des formes comme des arbres. Mais un jour, vous verrez tout distinctement parce qu'un jour, je reviens. Il annonce déjà son retour. Il annonce déjà son retour et il le dit, je vais revenir dans la gloire avec les saints anges. Il laisse pas la foule et les disciples dans une incertitude, dans le doute. Il est en train de dire, oui, vous allez passer par des moments difficiles, oui. Je suis pas le Messie que vous pensez. Oui, je suis pas le Messie qui va s'asseoir dans un trône et qui va mourir. Non, moi, je vous annonce quelque chose de plus. Je vous annonce quelque chose qui sauve l'âme. Et aujourd'hui, c'est ça, devenir un disciple. Il est en train de dire, celui qui me suit. Donc il annonce toute la foule à devenir ses disciples. Et c'est la question qu'il lance aujourd'hui. Veux-tu devenir le disciple de Jésus? Parce que là encore, c'est une question dont la réponse, c'est le royaume qui vient. C'est pas seulement sur terre, mais c'est aussi sur la terre renouvelée et sur le royaume qui vient. Et c'est là où tout se jouera. Qu'as-tu choisi? Qu'as-tu choisi ? Est-ce qu'on est comme Pierre en lui disant « Non, non, attends, t'as pas compris ?» Jésus, c'est pas ça. On accepte d'être transformé. D'être transformé, de porter notre croix. Et on a vu quelques témoignages où parfois c'est dur. La vie chrétienne, c'est pas toujours évident. Mais on a cette glorieuse espérance de son retour. Et rapidement, c'est pas dans le texte, mais c'est juste après, hein, Jésus confirme qu'il est celui qui dit qu'il est. Juste après, hein, je lis pas les textes, mais c'est juste après dans Marc, dans le début de Marc 9 jusqu'à 9:14. Eh bien, il est en train de montrer sa gloire. Il y a un bref épisode qu'on appelle la transfiguration où Jésus est glorifié. Où Jésus est glorifié. Et finalement, Marc encadre la guérison de l'aveugle en deux temps avec la transfiguration pour dire qu'il est bien celui qui dit qu'il est. Il a cette gloire du Père. Est tellement glorieux, hein. La transfiguration, on en a déjà parlé, mais il était tellement glorieux que la couleur n'était pas humaine. Il dit, il était blanc, mais un blanc qu'on ne trouve nulle part. C'était une blancheur qui est au-delà de la terre. C'était une blancheur du royaume de Dieu. Et des disciples vont voir cette scène, et ils ont vu le royaume de Dieu dans toute sa gloire. Avant de mourir, Jésus n'a pas forcément menti. Et ça, en fait, ça se boucle. Alors nous, dans nos Bibles, c'est découpé différemment, mais derrière, voilà pourquoi Marc met au milieu « Qui dites-vous que je suis ?» Parce que ça encadre les deux choses. Notre difficulté à voir Jésus tel qu'il est et tel qu'il est vraiment, c'est lorsqu'il est transfiguré. Il y a un bref aperçu. Il y a un bref aperçu de qui il est. Et donc, pour conclure, hein, sur ce petit passage, mais riche en interrogations, et c'est vos réponses, c'est ta réponse. Lançant l'interrogation depuis le début, Marc présente Jésus comme le Messie, comme celui qui a la bonne nouvelle, comme celui qui a fait une brèche. Il y aura un avant et après Jésus-Christ. Donc avant même que nous, on note en histoire avant et après Jésus-Christ, Marc annonçait déjà ça. Il dit, il va y avoir un avant et un après. Jésus, il y aura un avant et après lui. Il y a la bonne nouvelle du salut. Mais pour le comprendre, il faut être prêt à se laisser toucher par Jésus. Et comme cet aveugle, touche-le pour que nos yeux voient distinctement. Aujourd'hui, on voit pas toujours tout, mais on va voir un jour distinctement. Jésus n'est pas le Messie que nous voulons, parfois. Ah, il n'est pas celui qui vient maintenant, il n'est pas celui qui guérit parce que j'ai mal, il n'est pas celui qui agit dans la vie de mes proches, il n'est pas celui qui fait ce que j'aimerais qu'il fasse, mais il est celui qui fait tout parfaitement. Et nous avons besoin de se positionner face à sa personne. En fait, il est en train de dire, ce que tu décides de qui je suis, ça décidera de ton éternité. Mais on peut pas rester neutre, et ça n'existe pas. C'est pourquoi il dit, je me présente, celui qui veut être mon disciple, qui vienne, qui me suive. Parce que moi, je rachète ton âme. Jésus, lui, il l'a racheté à la croix, et c'est le seul qui a pu le faire. Personne d'autre le fera après lui, personne d'autre ne pourra le faire maintenant. Et il est en train de dire, cette réponse, elle a du poids. Je me force pas, mais la réponse que tu vas donner, elle a du poids. Je la respecte. Qui est Jésus pour toi ce matin ? Qui est Jésus pour toi ?